son livret de famille. Voilà. Et pour ça, je vous invite à prendre Matthieu chapitre 1. Et nous allons voir sa généalogie, vraiment une généalogie vraiment étonnante. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pérets et Sarah, Pérets engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abihud, Abihud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. » Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà une généalogie avec des noms qui nous sont compliqués aujourd'hui, mais qui sont riches d'enseignements. Et pour comprendre et apprécier mieux cette généalogie, il nous faut avoir à l'esprit la chose suivante. La promesse centrale des prophéties dans cet testament était le grand roi qui régnera sur le royaume promis par Dieu. Ce grand roi détient la justice, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et le droit de régner non seulement sur Israël mais sur la terre entière. Ce roi écrasera la tête de Satan, on se rappelle de Genèse. Il rétablira la domination que l'homme a perdue à cause du péché et il établira sur la terre un royaume qui durera éternellement. Et dans Genèse 49, verset 10, nous lisons « Le sceptre ne s'éloignera point de lui, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Aucun des rois de l'Ancien Testament n'a régné éternellement. Et Jésus, c'est ce roi qui est venu et qui répond à toutes les attentes des prophètes. Les prophètes déclarent que le grand roi est à la fois humain et divin. Ésaïe nous apprend qu'il doit naître d'une vierge et qu'il sera méprisé, abandonné, frappé, blessé. Mais Ésaïe nous dit également que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Les évangiles nous éclairent sur l'identité de ce roi. Ils montrent par une succession d'événements que Jésus est le seul qui remplit toutes les exigences des prophéties. Le Nouveau Testament, dans son ensemble, reconnaît en Jésus le grand roi promis. Le terme royaume apparaît plusieurs fois, 144 fois, pour désigner le royaume de Jésus-Christ. Chaque évangile nous brosse un portrait de Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Matthieu, il est le souverain, alors que Marc le présente comme le serviteur. Dans l'évangile selon Luc, il est le fils de l'homme, tandis que Jean le présente comme le fils de Dieu. Le même Jésus est présenté à la fois comme le Dieu souverain et comme homme serviteur. La généalogie que nous avons lue à l'instant devait prouver aux Juifs que Jésus était le Messie et le roi qui accomplirait tout ce que les prophètes avaient prédit. Et dans la première phrase, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, se trouve tout l'enseignement de l'Ancien Testament concernant celui qui devait venir pour régner sur Israël. Dieu avait fait une promesse à David. Il avait promis qu'un successeur régnerait éternellement sur son trône avec justice et équité, amenant la paix à la nation juive. Mais Dieu aussi avait promis à Abraham une postérité qui apporterait la bénédiction universelle. Eh bien, en Jésus, ces deux choses sont réunies. En Jésus sont réalisés tous les espoirs de ceux qui sondaient les Écritures. Mais la généalogie est bien plus que la lignée de Jésus-Christ. Elle est bien plus qu'une simple liste de noms anciens qui nous sont difficiles à prononcer. Cette généalogie est une belle illustration de la grâce de Dieu, et c'est ce que nous voulons voir ce matin. C'est une généalogie vraiment étonnante parce que la grâce de Dieu y brille du début jusqu'à la fin. Tout d'abord, la grâce de Dieu brille par la présence de cinq femmes, le nom de cinq femmes, la présence inattendue de cinq femmes. Ensuite, la grâce de Dieu brille par la fidélité de l'Éternel à tenir ses promesses malgré le péché des hommes. Et enfin, la grâce de Dieu brille par le repos que nous avons en Jésus-Christ. Je développerai ce matin les deux premières parties, puisque nous avons des enfants, mais pour ne pas être trop long. Et nous allons voir tout d'abord combien la grâce de Dieu brille par la présence inattendue de ces cinq noms de femmes dans la généalogie. Et pour apprécier cela, il nous faut considérer le contexte dans lequel Matthieu vivait et écrivait. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture individualiste. Chacun se met en valeur par ses diplômes, par son statut social, par son expérience professionnelle, par ses diverses actions. À l'époque de Matthieu, la société était plus collective, elle était fondée sur la famille. Matthieu 1 est une généalogie, mais c'est aussi un CV, un curriculum vitae. À l'époque de Matthieu, tous ceux auxquels vous êtes reliés constituent votre CV. Votre famille constitue votre CV. Votre ascendance constitue votre CV. Votre tribu constitue votre CV. Ainsi, votre généalogie était une façon de dire au monde « voici ce que je suis ». Et l'objectif d'un CV sous forme de généalogie était d'impressionner les gens par la qualité et la respectabilité de votre ascendance. À l'époque, comme aujourd'hui, on trafiquait un peu le CV pour mettre en valeur les bonnes choses et cacher un peu ce qui n'était pas bien. Et on gardait seulement ce qui était bien. On sait qu'Hérode le Grand a manipulé un peu sa généalogie, il a éliminé les gens qui n'étaient pas désirables parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait un lien avec ces personnes. Est-ce que Matthieu va faire la même chose? Est-ce que Matthieu va embellir la généalogie de Christ pour nous faire voir qu'il est grand, qu'il est vraiment ce roi, ce Messie attendu? Est-ce qu'il va chercher à nous impressionner par la grande qualité de l'ascendance de Christ? Pas du tout. La généalogie de Christ est complètement différente des généalogies de l'époque, et cela à plus d'un titre. Premièrement, Matthieu mentionne cinq femmes. Au verset 5, verset 3, verset 6, verset 17, vous l'avez lu comme moi, il s'agit de Tamar, de Rahab, de Ruth, de la femme d'Uri et de Marie. Aujourd'hui, cela ne nous surprend pas qu'il y ait des noms de femmes dans les généalogies. Mais dans les sociétés anciennes, patriarcales, on ne citait pas les femmes. On ne citait pas les femmes dans les généalogies, surtout cinq à la fois. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Dans ces cultures, les femmes étaient le sexe exclu. Eh bien, on les voit mentionnées dans la généalogie de Christ. Deuxièmement, la plupart de ces femmes mentionnées ne sont pas juives. Elles sont cananéennes ou moabites. Tamar, Rahab, Ruth. Tamar que l'on retrouve dans Genèse 38. Rahab dans Josué chapitre 2. Ruth dans Ruth chapitre 4, verset 13, 18, 22. Elles sont cananéennes ou moabites. Remarquez qu'on ne voit pas le nom de Sarah, de Rebecca, de Léa, qui sont pourtant des matriarches juives. Elles ne sont pas dans cela. Ce sont des juives, ce sont des moabites ou des cananéennes. Et on sait que ces peuples, les cananéens ou les moabites, étaient impurs aux yeux des anciens hébreux. Ils étaient interdits de pénétrer dans le temple ou dans le tabernacle, Deutéronome chapitre 7, verset 3, Deutéronome chapitre 23, verset 3. Ces peuples faisaient partie des peuples exclus. Pourtant, ces trois femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ. Troisièmement, en donnant le nom de ces femmes, Matthieu rappelle au lecteur des épisodes troublants, des épisodes sordides et immoraux de la Bible. Il nous est dit au verset 3 que Jésus est le descendant de Pérès et Zara. On sait que Jésus est le descendant de Pérès seulement et pas de Zara. Mais Pérès et Zara étaient deux jumeaux. Mais en disant Pérès et Sarah, Matthieu veut que l'on se rappelle ces histoires dans Genèse 38. Il y a aussi, il rappelle l'histoire de Judas et Tamar. Pourquoi Matthieu mentionne Pérès et Zara ainsi que Judas et Tamar? Parce que Matthieu veut que le lecteur se rappelle l'inceste qui a lieu entre Judas et Tamar. Au Genèse chapitre 38, on ne va pas relire, mais voilà, Tamar s'était fait passer pour une prostituée. Son beau-père lui avait promis un fils et il n'a pas tenu sa parole. Donc finalement, elle a couché avec son beau-père pour avoir une descendance. Et de là sont nés les deux jumeaux, Pérès et Sarah. La Bible condamne l'inceste et la Bible condamne aussi la prostitution. C'est contraire à la loi de Dieu. Et on voit, quand on lit cette généalogie, que le Messie vient de cette famille, une famille dysfonctionnelle. La grâce de Dieu règne dans la généalogie de Christ. La grâce de Dieu est étonnante. Il nous est parlé aussi au verset 5 de Rahab. Rahab était une cananéenne, elle était une prostituée, c'était même sa profession. Eh bien, son nom est nommé aussi dans la généalogie de Christ. Il est fait au verset 6 mention de David. On dit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et on se dit là, tiens, voilà. Voilà l'ascendant, voilà un homme qui va donner du cachet à cette généalogie. Voilà l'illustre ancêtre que tout le monde désire avoir dans sa généalogie, David le grand roi. Mais Matthieu va continuer en disant, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Pourquoi il n'a pas dit simplement, le roi David engendra Salomon de Bathsheba? Pourquoi il dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Là encore, Matthieu veut que nous nous souvenions d'un événement tragique de l'histoire d'Israël. Quand on lit 2 Samuel au chapitre 23 ou 1 Chronique au chapitre 11, on voit qu'il y a là des hommes, ce qu'on appelle les vaillants hommes de David, et c'est à l'époque où David était en fuite et cherchait à échapper à Saül. Il y a un groupe d'hommes, les vaillants hommes de David, qui l'accompagnent. Ce groupe d'hommes le défend au péril de leur vie. Et Uri fait partie de ce groupe d'hommes. Uri fait partie des vaillants hommes de David. Uri fait partie de ces hommes à qui David doit la vie. Pourtant, quelques années plus tard, alors que David est devenu roi, il va faire assassiner Uri, parce qu'il a couché avec sa femme et qu'elle est tombée enceinte. Et Salomon sera le deuxième fils de Bathsheba et de David. Matthieu donc ne nous dit pas que le roi David engendra Salomon de Bathsheba. Il dit le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, pour nous rappeler ce fait tragique. Il veut que notre attention se porte sur David et sur ses mauvaises actions. On trouve donc dans la généalogie de Christ des personnages moralement douteux à cause de l'adultère, de la prostitution, de l'inceste. On souligne même que les ancêtres les plus prestigieuses, comme David, comme Judas, sont des hommes moralement faibles. On y trouve des exclus de diverses sortes, exclus à cause de leur sexe, toutes ces femmes, ces cinq femmes, exclus à cause de leur race moabite, cananéenne, exclus à cause de leur culture différente. La loi de Moïse ôtait ces personnes de la présence de Dieu. Pourtant, elles sont mentionnées dans la généalogie de Christ. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement? Que doit-on conclure? Premièrement, nous pouvons conclure que tous ceux qui sont exclus pour diverses raisons, même ceux qui sont exclus par la loi de Dieu, peuvent faire partie de la famille de Jésus. Qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, si vous repentez, si vous croyez en Jésus-Christ, sa grâce couvre votre péché et vous unit à lui. Aussi sale que vous puissiez être moralement, vous deviendrez blanc comme la neige, comme dit Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ensuite, quand on considère le roi David, on se dit, voilà quelqu'un qui a un beau pédigré, voilà un homme exceptionnel. Il avait tous les attributs du pouvoir de l'époque. C'était un homme et non une femme. Il était juif, il n'était pas païen. Il était un roi, il n'était pas pauvre. Pourtant, Matthieu nous montre que c'est par la grâce seule que David fait partie de la famille de Jésus. Toutes ces personnes qui sont mentionnées dans la généalogie de Christ le sont par la grâce seule de Dieu. Tous ont besoin de la grâce de Dieu. La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le meilleur des êtres humains a besoin de la grâce de Dieu. Tous peuvent recevoir la grâce de Dieu, même le plus mauvais des êtres humains. La seule condition est de se repentir et de croire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Les personnes que Dieu a donc choisies pour être les ancêtres de Jésus-Christ révèlent la grandeur de la grâce et donnent de l'espoir à tous les pécheurs, à moi comme à vous. Ensuite, il y a une deuxième façon avec laquelle la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Christ. La grâce de Dieu brille par la fidélité de l'Éternel à tenir ses promesses. On lit au verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça remonte loin, n'est-ce pas? Fils de David, fils d'Abraham. Parce qu'on lit en Genèse, chapitre 12, verset 3, Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et même avant Abraham, Dieu avait promis en Genèse, chapitre 3, verset 15, que quelqu'un écraserait la tête de Satan et vaincrait le mal. Il a fallu attendre des siècles, des millénaires avant que l'ange ne rende visite à Marie au sujet de l'enfant qu'elle porte et qu'elle loue le Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses. Et on peut lire dans Luc chapitre 1, versets 54 à 55, ce que dit Marie. Il a secouru Israël, son serviteur, et se souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Dieu met du temps, n'est-ce pas? Mais Dieu accomplit ses promesses. 400 ans avant la naissance de Christ, aucun prophète n'a parlé. C'est le silence total. Aucun prophète n'a été envoyé au peuple de Dieu. C'était comme si Dieu avait oublié ses promesses. Et voilà que le Messie arrive. Et voilà que Dieu apparaît. Voilà que Matthieu nous parle de cette généalogie. Voilà que Dieu apparaît à Marie et Joseph. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Dieu n'est pas assujetti à notre calendrier. Il semble lent à agir, mais il tient toujours ses promesses. Et lorsqu'elles se réalisent, elles vont bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est Éphésiens chapitre 3, verset 20 qui nous encourage en disant « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. » Et ça, on peut le voir dans l'histoire de Joseph, si vous vous rappelez de Joseph. Pendant des années, il a semblé que Dieu ignorait Joseph, Dieu ignorait les prières de Joseph, il semblait que Joseph était abandonné et qu'il passait de difficulté à difficulté. Mais dans toutes ces choses, Dieu était là. Toutes ces choses sont arrivées pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Et nous lisons dans Genèse, « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà. C'est par ce temps d'attente que Dieu a accompli sa promesse. On le voit aussi dans l'évangile selon Marc, avec la fille de Jairus et la femme atteinte d'une perte de sang qu'on a eue avec Tony. Jésus est appelé pour guérir une petite fille, mais on le voit en chemin traîné. Les gens l'arrêtent, la foule lui parle. Voilà, il guérit cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Et bien, quand il se remet en route, trop tard, il arrive chez Jairus et la jeune fille est morte, la fille de Jairus est morte. Les priorités de Jésus semblaient mauvaises, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles ne l'étaient pas. La grâce de Dieu n'est pas assujettie à notre calendrier. Elle ne respecte pas notre calendrier et nos séances. Et la fille de Jairus était déjà morte quand Jésus est arrivé chez Jairus. Mais c'est un drame. Jésus va simplement lui dire, ne crains point, crois seulement. Alors on a l'impression que Dieu oublie ses promesses. Mais en réalité, il les accomplit d'une manière que nous n'avons pas imaginée. Quand on considère la venue du Messie, le roi divin, notre logique voudrait par exemple que ce roi naisse dans un palais, qu'il naisse entouré par une armée, qu'il soit dans un endroit brillant. Eh bien, la volonté de Dieu est qu'il naisse dans une étable, les enfants l'ont chanté, que dans la fragilité, dans la faiblesse d'un corps humain, pour finalement mourir sur une croix. Est-ce ça un roi que nous attendons? Est-ce cette personne qui va sauver le monde? Eh bien oui, pour Dieu, c'est de cette manière que Jésus a parfaitement sauvé le monde. C'est de cette manière que Dieu aussi tient ses promesses. Mais revenons encore une fois à la généalogie au verset 2. Il nous a dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérette et Zara, Pérette engendra Esrom. Jacob engendra Judas et ses frères. Comment Judas est-il devenu le fils de Jacob? Eh bien, quand on lit l'histoire, c'est après une vie de désordre et de péché. Jacob a menti à son père pour voler la bénédiction de ce frère Ésaü. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de souffrances dans cette famille, beaucoup de conséquences pour la famille de Jacob et pour la famille en entier. Mais c'est pourtant à la suite de tout cela que Jacob va rencontrer Léa, qui va donner naissance à Judas. Ce que Jacob avait fait était mal. Il a payé par la souffrance. Beaucoup de personnes ont souffert dans cette famille. Cependant, Dieu est plus grand que notre péché. Dieu est plus grand que notre péché. Il a tiré parti des mauvaises actions des hommes pour réaliser sa promesse. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il accomplit toutes choses à la perfection. Dieu tient ses promesses. La généalogie de Christ le prouve. La naissance de Jésus-Christ le prouve. Et on lit dans Matthieu chapitre 1 verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Eh bien, j'aimerais malgré tout terminer par une troisième façon dont la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle brille par le repos que nous avons en Jésus-Christ. Et nous lisons au verset 17, « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 14 générations entre Abraham et David. C'était une période de déplacement, une période d'esclavage, une période de terre étrangère et de délivrance. 14 générations de David à la déportation à Babylone, c'est la période de la monarchie avec ses hauts et ses bas, période de déclin, d'apostasie, de tragédie qui va trouver son terme dans l'exil. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au temps jusqu'au Christ. Et bien là aussi une période de captivité, d'exil, de frustration. On voit dans ces 3 fois 14 générations dans la généalogie de Christ, on voit qu'il y a un mélange de gloire, d'obscurité. Israël s'élève, Israël tombe et finalement rejette et crucifie le Messie que Dieu lui a envoyé. Alors il y a 3 fois 14, on peut dire 6 fois 7, et si on considère que 7 c'est une septaine, il s'est écoulé 6 septaines jusqu'à Christ, et Jésus se trouverait donc au début d'une 7e septaine. Mais qu'invoque dans la Bible le chiffre 7? À quoi est-il associé? On trouve au moins 3 situations dans lesquelles sont associées le chiffre 7. Et l'idée de repos est toujours là, présente dans ces 3 situations. Tout d'abord, le chiffre 7 a une signification par rapport à Dieu. Quand on parle du sabbat, il se reposa le 7e jour. Dans Genèse chapitre 2, verset 2. Ensuite, le chiffre 7 a une signification par rapport à la terre dans la loi de Moïse. Tous les 7 ans, un fermier devait laisser reposer la terre pour lui permettre de se régénérer, une sorte de jachère. Et une troisième situation dans laquelle le chiffre 7 est noté, c'est par rapport aux hommes et à la terre. Dans Lévitique 27, on apprend que la dernière année d'une série de 7 périodes de 7 ans, soit la 49e année, c'est l'année du jubilé. Et durant l'année du jubilé, tous les esclaves doivent être libérés. Toutes les dettes doivent être remises. Toutes les terres et leurs habitants doivent se reposer de leur tracas et de leur fardeau. La septième septaine, le sabbat des sabbats, était un avant-goût du repos ultime que l'on trouverait en Christ. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Hébreux chapitre 4, quand il nous dit nous avons un souverain sacrificateur, nous approcher de lui avec assurance. Comment pouvons-nous dès maintenant profiter du repos? Comment trouver le vrai repos? Eh bien, le vrai repos ne peut venir que de Jésus-Christ, puisque lui-même nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Frères et sœurs, chers amis, que votre vie soit un succès, que votre vie soit un échec, que vous soyez un brigand ou un roi, la grâce de Dieu est nécessaire et suffisante pour que vous connaissiez le repos. La grâce de Dieu est offerte indépendamment de nos défaillances ou de nos performances, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, vous avez aussi besoin du repos du Seigneur, parce que la vie n'est pas faite de moments toujours joyeux. Il y a des hauts et des bas. Nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est impossible. La généalogie de Christ nous montre que la grâce de Dieu mille de brille de mille éclats et qu'en dépit des apparences, Dieu contrôle les événements. Notre paix intérieure provient de cette promesse que nous avons en Jésus-Christ, lui qui donne le repos. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc la généalogie de Jésus-Christ est bien plus qu'une liste de noms difficiles à prononcer, de noms anciens. La généalogie de Christ est un témoignage de la grâce de Dieu et du ministère de son Fils, l'ami des pécheurs, qui n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, selon Matthieu chapitre 9, verset 13. Jésus est venu dans le monde pour sauver par sa seule grâce. Oui, le Sauveur est né. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que le Seigneur, donc, nous aide à apprécier cette grâce que nous avons en Jésus-Christ, qui nous aide à apprécier le repos, et que nous puissions, jour après jour, nous appuyer sur lui. Si vous ne le connaissez pas comme votre Sauveur et Seigneur, eh bien, sa généalogie nous montre que notre péché ne nous empêche pas d'être enfants de Dieu, mais justement, à cause de lui, nous avons besoin de la grâce, et qu'elle est offerte gratuitement, comme elle a été offerte dans tous les temps. Que Dieu bénisse sa parole. Ah.